Voilà, donc pour ce qui est l'inconscient. Alors, le développement psychogénétique, donc en psychanalyse, on s'intéresse à la psychogenèse et non pas à l'organogenèse. Ça, c'est le registre des médecins, c'est un registre médical. Et vous devez connaître donc ce titre de livre célèbre, « Tout se joue avant 6 ans », certains courants disent avant 4 ans. Alors, dans les grandes lignes, que se passe-t-il donc, je vais vraiment là beaucoup schématiser parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez avec nous et que vous nous fassiez part de vos demandes encore une fois. Donc, la gestation, l'inconscient vit un état de toute puissance dans la mesure où il n'a pas accès à l'extériorité. Finalement, si on prend, j'en sais rien, ce que les gens appellent à très mauvais escient une ménagère, c'est-à-dire une femme qui, quelque part, refuse de travailler, effectivement, elle peut régner en maître absolu dans sa cuisine, au-dessus des fourneaux, etc. Mais il se pourrait qu'elle ait beaucoup plus de difficultés, non pas par limite intellectuelle, mais encore une fois par angoisse, par déficience psychologique, à aller affronter l'extérieur, un employeur, des collègues de travail, etc. J'espère que ça ne vous choque pas, donc je vous dis cela. Je ne suis pas du tout contre la femme qui ne travaille pas. Mais donc c'est pour resituer les choses, effectivement. Donc on voit que l'extérieur, même si l'extérieur nous attire, l'extérieur peut nous faire peur. Et même, je trouve, quand on a beaucoup cheminé ou quand on n'est plus du tout jeune, comme c'est mon cas, bon, c'est vrai qu'il y a des situations. Hier, RMC m'avait fait le privilège de m'accueillir donc pour une très courte interview. Bon, j'étais pas bien parce que j'avais peur de dire des bêtises et puis c'est pas du tout mon milieu, etc. Donc on voit que l'extérieur, même si parfois on est obligé, même souvent, de passer donc par cette dimension-là, peut nous impressionner. Et souvent aussi à juste titre. Donc effectivement, le petit dôme, donc pendant la vie intra-utérine, vit quand même une période tout à fait confortable. Alors, il y a aussi un postulat de Freud qui a été très important, qui est avalisé maintenant depuis une quinzaine d'années par la médecine, même si la médecine n'a pas repris les travaux d'ailleurs de Freud directement, qui est le parexcitation, c'est-à-dire pendant les 9 mois de grossesse, effectivement, l'enfant est relativement protégé de tout ce qui pourrait le perturber, donc venant de l'extérieur. C'est un processus donc dit psychophysiologique qui amoindrit donc les traumatismes qui pourrait venir éventuellement d'une famille pas très équilibrée. Et là, encore une fois, j'insiste, je laisse de côté, bien sûr, les problématiques que pourrait entraîner, par exemple, une mère toxicomane. Alors, il est très vite facile, effectivement, d'avoir l'impression qu'on est tout-puissant. Et le petit dôme, donc, pendant cette période, vit un état de toute-puissance. Il vient au monde, les choses sont très différentes, l'extérieur arrive. Donc, pour certains d'entre vous, je pense qu'ils le connaissaient, c'est ce que Otto Rank a appelé le traumatisme de la naissance, parce qu'il y a un processus de dissociation qui se met en place, et l'inconscient donc du petit homme fantasme qu'il a perdu en fait une partie de lui-même donc en naissant, et même s'il ne sait pas encore ce qu'est la mère, donc l'inconscient va passer son temps à rechercher, c'est peut-être pour ça aussi que nous nous accouplons donc affectivement et socialement, mais il va avoir cette quête un petit peu d'ailleurs désespérée tant qu'on on ne comprend pas qu'elle est inutile, donc cette quête désespérée qui nous pousse donc à essayer de retrouver cet état trop fusionnel, donc intra-utérin. Donc là, on parle de dissociation, c'est la véritable première angoisse donc, que l'être humain rencontre, et c'est pour ça que Freud, donc toujours par couple d'opposés, a appelé la méthode psychanalytique la méthode des associations libres, et là, je refais donc allusion au lien que nous sommes censés rétablir sous l'effet donc de la guidance de cure. Alors, l'enfant va d'abord découvrir sa mère. Donc on le verra tout à l'heure aussi en psychogénéalogie, parce que nous, à notre sens, il y a beaucoup d'erreurs en psychogénéalogie qui sont commises. Ça paraît tellement évident. Donc l'enfant rencontre d'abord la mère. Alors il va la découvrir au départ, bien sûr, non pas comme un sujet, on s'en doute, mais il va la découvrir comme un objet, donc c'est ce qu'on appelle la relation objectale. Et il garde quelque part de sa toute-puissance, elle n'est plus tout à fait la même. C'est ce que donc on appelle en analyse le narcissisme primaire. Il va fantasmer, donc il introjecte le sein, même s'il s'agit d'un biberon, et ainsi il rétablit l'état de plaisir. Donc on retrouve aussi cet axe, donc au commencement était le ça. Et puis les choses vont se gâter parce qu'il y a quand même Certes, s'il y a du fantasme dans tout cela, il y a quand même aussi un processus donc physiologique réel, et l'enfant va rencontrer bien sûr tous les aléas inhérents, notamment donc au processus digestif. Donc, quand il va avoir tété, il va déjà éliminer cette boule de lait, donc il va avoir une sensation de vide qui n'est pas encore véritablement de l'abandon, mais enfin il va quand même ressentir que quelque chose l'abandonne. Et puis il y a les fameuses coliques du nourrisson, donc il a l'impression effectivement pour le coup que l'extérieur est quelque chose d'extrêmement agressif. Je dis toujours en cure, on voit que les gens souffrent beaucoup plus d'un envahissement par le vide que d'un envahissement par le plein, parce que même si on se plaint justement d'avoir une famille ou des amis envahissants, la solitude est quand même quelque chose, de part encore une fois d'ailleurs cet état fusionnel intra-utérin, est quelque chose qui nous pénalise beaucoup à tous les sens du terme. Mais l'inconscient reste, je ne parle pas de cas pathologiques, hein, d'inconscients qui déjà sont des inconscients psychotiques, c'est-à-dire de bébés qui régressent psychologiquement dès la naissance, mais pour un petit homme qui est en bonne santé, il a donc ces pulsions de vie, donc, que Freud a appelées Eros, pour des raisons que j'ai un petit peu implicitées tout à l'heure, qui sont là et qui ne s'avouent pas vaincus. Alors il va chercher à contrôler la mère, parce que cet objet, donc, tu m'écoutes attentivement. Oui, parce que Lionel a un petit garçon qui a quel âge ? 3 semaines. Mais tu savais tout ça, hein, tout ce que je raconte, tu le sais. Je crois que tu dors très peu, hein, c'est ce que tu m'as dit, très très peu. Oui, on l'a connu jeune homme, tout frétillant, là, mais c'est vrai que ça file un coup de vieux, hein, finalement. Moi, ça me console, t'as pris 10 ans d'un coup, là, ouais. Bon, d'accord. Et en plus, il faut travailler 3 fois plus. Alors ça, c'est encore autre chose, hein. Lionel me parlait ce matin, du coup, des couches culottes. On va y venir, d'ailleurs, là, on va parler d'analité, maintenant. J'essaie d'être aussi douée que toi, mais c'est pas terrible. Hein. Bon. Hein. Alors effectivement, l'analité, on a parlé de l'oralité, donc avec un processus dit introjectif, c'est-à-dire je mets du dehors au dedans, donc c'est l'oralité, c'est l'absorption, c'est l'alimentation. Donc encore une fois, pour essayer de retrouver cet état intra-utérin, là, ça n'a pas marché. Il y a cette espèce donc, d'agresseur, de persécuteur. Donc, l'inconscient du petit homme va essayer de se venger. On va dire qu'il va projeter. Effectivement, l'inconscient, même s'il n'a pas encore acquis le contrôle des sphincters, réalise quand même qu'il se passe quelque chose, et notamment donc un processus de l'ordre de la destruction. Effectivement, la défécation est quand même un processus donc destructif. Alors, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, je vais essayer de contrôler ma mère, donc c'est les caprices, etc. Si la mère, lorsque l'enfant se réveille, répond immédiatement à la demande du nourrisson, l'enfant fantasme qu'il a réussi son contrôle. Et à nouveau, il retrouve un état très narcissique, un petit peu lié à la toute-puissance. Si par contre la mère est au téléphone quand l'enfant se réveille, elle ne va pas tout lâcher dans la demi-seconde qui arrive. Et l'enfant va avoir l'impression, effectivement, que son contrôle échoue. Alors, fantasmatiquement, il va avoir cette attitude, puisqu'il a un schéma dit d'identification, donc qui est encore une fois un schéma digestif, et il va se dire, ben voilà, cet objet qui m'agresse, je vais le détruire. Donc encore une fois, c'est cette agressivité qu'on peut retrouver, ce à quoi je faisais allusion en ce qui concerne Lionel, lorsqu'il y a ces cris qui sont... C'est vrai que ça peut nous détruire, on a mal au tympan, etc. Puis on est complètement hystérisé. L'enfant là, a l'impression donc finalement d'atteindre sa cible, mais déjà, le surmoi auquel j'ai fait allusion tout à l'heure opère, et il va rentrer en culpabilité. Et là, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de rétorsion, c'est-à-dire que l'inconscient commence un petit peu à réaliser que s'il fait du mal, on peut lui faire du mal. Alors, l'enfant n'est pas très bien à ce stade-là, et bon, il a quelques mois, et d'ailleurs, là, les médecins le savent, plus que tout autre, très souvent, ils sont consultés, donc, pour des états un peu dépressifs chez le nourrisson, aussi, des morts subites du nourrisson, là, par contre, on se désolidarise un petit peu du mouvement médical à ce niveau-là. Et l'enfant, donc, vit un véritable état d'engloutissement, d'abandon. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours une immaturité pulsionnelle, il n'arrive pas donc à se faire une représentation bien sûr concrète encore de l'extérieur. Et quand, par exemple, la mère sort de la pièce, eh bien, il fantasme que la mère s'en va avec son moi. Donc, il y a un fantasme d'abandon. Là, par contre, à ce stade-là, je suis une ancienne abandonnée de lapsus. À ce stade-là, les pulsions de mort que Freud a appelées très peu fréquemment d'ailleurs Thanatos, donc joue un rôle très persécuteur aussi, qui peut être très actif malheureusement. Et l'enfant peut avoir des conduites très très autodestructrices. Donc, parce qu'il n'a aucune conscience bien sûr de ce que peut être un moi. Et cet état donc d'agressivité, il va malgré lui le retourner contre lui, c'est-à-dire que il finit par fantasmer, ma mère est partie avec mon moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il va falloir que j'introjecte le moi de l'objet pour essayer de récupérer mon moi qui est à l'intérieur d'elle. Et c'est là où déjà donc se fixe, on parle de fixation en analyse, donc se fixe notamment les profils suicidaires. À part que c'est sur quelque chose de négatif, l'inconscient continue à cheminer parce que, bien sûr, les parents font leur travail, les parents parlent à l'enfant, on verra combien le verbe, encore une fois, est important. Et l'enfant va se rendre compte, en fait, finalement, que lorsqu'il cherche comme ça à agresser l'entourage, en particulier sa mère ou une mère de substitution, eh bien, une espèce de distance s'installe, ce qui, d'ailleurs, va être quelque chose de très salvateur pour l'inconscient. Donc, on dit que la mère pose la distance en faisant respecter l'ordre des choses. Cette distance, même si elle est rejetée, effectivement, va structurer la future autonomisation de l'être humain. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la translation. L'enfant commence à se rendre compte qu'il y a lui, bien sûr, et la mère. Donc, encore une fois, même si c'est douloureux. Et c'est là, par exemple, lorsqu'on a des patientes, notamment très autodestructrices, qui sont des femmes battues, ou donc là aussi, de par la guidance de la cure, on peut leur permettre donc de prendre conscience, effectivement, qu'elles se font mal donc, en supportant certaines situations. Et on arrive donc à un fantasme qui est intéressant, qui a été appelé par Jacques Lacan le stade du miroir, qui peut être pour les Jungiens l'individuation, qui est un stade dit d'identification où l'enfant va véritablement découvrir, même si ce n'est pas facile, qu'il est semblable bien sûr à sa mère, mais qu'il est aussi bien sûr différent. Donc c'est ce qu'on appelle bien sûr en philo l'alter ego. Même parcours avec le père, avec des différences. Là, on va dire que l'enfant n'introjecte plus le sein, mais le phallus. Donc le phallus, bien sûr, vous l'avez compris, est une transposition donc du pénis, puisque l'inconscient à ce moment-là est, encore une fois, même s'il connaît un état psychosexuel, il ne sait pas du tout ce qu'est la sexualité. Et par analogie de forme, très fantasmatiquement, donc il envisage effectivement le phallus qui crache aussi une laitance, un petit peu comme étant une sorte de sein. Donc le parcours sera le même, si ce n'est que là, le père, en fait, lui, va être le représentant de la loi. Et lui, l'ordre, il n'a rien à en foutre. Et d'ailleurs, on sait très souvent, le père, s'il a la garde de l'enfant sur un repas, même si le petit veut commencer par le yaourt, il s'en fout. Alors qu'une mère, c'est tu commenceras par ta soupe, et, etc. Mais par contre, bien sûr, le père va imposer donc l'ordre, carrément, donc dans le sens de la loi. À ce stade-là, ça va? Je ne vous envahis pas trop? C'est bon? Je déborde beaucoup, là? Oui, ça vient? Ça vous inquiète, non? Avez-vous des questions à poser? Tout ce qu'on vient de voir rapidement, c'est le stade dit pré-œdipien. Entre ce stade-là, donc cette grande fresque, et le stade œdipien, il y a ce qu'on appelle le stade phallique. S'il y a des psychanalystes parmi vous, il y en a qui ne sont pas du tout d'accord, qui refusent de considérer ça comme un stade, qui appellent ça plutôt la phase ou la position phallique. C'est très dommage, parce que c'est quand même, entre autres, là où se joue quand même l'essentiel des fixations dites hystériques. C'est-à-dire qu'à la fin donc, de cette grande période identificatoire, première grande période, 0-18 mois, une identification à la mère, 18-30 mois, une identification au père, l'enfant se retrouve avec deux imagos. Selon Jung, c'est un terme jungien, l'imago, c'est-à-dire deux images de lui, il est comme maman, il est comme papa. Mais il est bien évident qu'abandonner une image lui semble crucial, parce que même s'il vit des histoires d'amour et de haine tour à tour avec ses parents, on vient de le voir rapidement, malgré tout, il est quand même le fils d'eux. Alors, il se retrouve avec ces deux imagos. Il va falloir qu'il refoule l'imago, donc il ne correspond pas à sa spécificité corporelle. Si il vous fait rire, je verrai après. Après, on se les repasse, si tu veux. Tu t'amuses. D'accord, on va voir après. C'est carrément cochon, j'ai l'impression. Heureusement que c'est pas filmé. Parce que là, notre réputation, Psychanalyse Magazine, c'est fini. Oui, il faudrait peut-être lui donner un micro parce qu'il dit des choses intelligentes, lui.
C'est vrai que si on prend le dessin en dehors de ce que tu viens de dire, ou en dehors du sujet, on peut être surpris.
Ouais. C'est là où souvent les gens ne comprennent pas, effectivement. Pour un petit homme, c'est tout à fait logique. Ouais.